d'accord, je veux dire, il n'y a personne pour faire quoi que ce soit. C'est les énergies de vie ensemble. Vous assistez à ça, hein? Pas comme un spectateur passif, là. Pas comme un observateur plus passif, non. Ça agit à travers votre corps, votre pensée, votre, tout ça. C'est vivant, vous faites partie de ça. Quand c'est graffiti que j'avais vu un jour sur un viaduc, sur l'autoroute, en Aix-en-Provence de Marseille, quelqu'un avait écrit vous n'êtes pas dans un bouchon, vous êtes le bouchon. Alors, faut oublier ça, c'est une image, l'idée qu'on est l'observateur, hein, on voit l'observateur, le monde est là, ou le nouvel imaginaire. Ne pas faire obstacle au courant de la vie, simplement. Donc, ça veut dire d'instant en instant sentir quand il y a une résistance, quand le moindre mal-être, c'est un signe que je suis en train de construire quelque chose d'inutile. Inutile de chercher la vérité, disait le texte. Juste regarder ce qu'on construit et qui est inutile. Très fatigant d'ailleurs. Attendez, à chaque instant, quand on construit. Quand est-ce qu'on construit quelque chose d'inutile? Quand on se positionne par rapport à ce dont on est témoin. On va chercher dans la mémoire des références pour se positionner par rapport à ça. Par exemple, vous ouvrez la télévision, vous voyez un homme public, un politicien, une politicienne faire une déclaration. Tout de suite, la tendance, la mémoire va aller chercher des éléments pour vous positionner par rapport à la personne. Dès que vous voyez la tronche, vous êtes pour, vous êtes contre. Vous êtes sympathique, antipathique. À partir de là, vous n'écoutez plus. C'est pas plus mal non plus. Hein? D'ailleurs, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur vos politiciens, vos hommes, sur vos politiques, fermez le son, coupez le son et regardez-les. Ça en apprend beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Regardez leurs lèvres, comment les lèvres sont faites, comment ça bouge, leurs oreilles, leur rictus, leur simagré. Leur tic, c'est pas compliqué, il y en a quand même beaucoup, hein. C'est l'abondance. Leur crispation, regardez, leur corps part. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent n'a d'autre but que d'essayer de vous séduire pour vous arracher un vote. C'est pas compliqué. Alors, on n'écoute pas ça. Il n'y a rien là-dedans. Rien mangé là-dedans. Oui, je disais d'instant en instant, regardez comment on se positionne, comment on se qualifie. Ça, c'est ça la pratique. Il faut absolument une pratique, c'est ça. Regardez comment on construit quelque chose d'inutile. Pas nécessaire de prendre position. Vous voyez arriver votre père, tout de suite, vous vous construisez en fils. Vous voyez arriver votre fils, vous voyez un père. C'est bête et méchant comme ça. Voilà, on se positionne. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien fonctionner en tant que père vis-à-vis votre enfant. Sans vous prendre pour un père, sans vous positionner. pouvez jouer votre rôle à la perfection, merveilleusement bien. La seule chose qui va vous manquer, c'est l'inquiétude. C'est la peur qui veut nous localiser dans un rôle. Voilà. Alors, voyez d'instant en instant comment vous faites ça. Chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, vous complimente, critique, vous menace, vous invite, vous évite. Voyez si vous êtes capable de vivre quelques minutes ininterrompues sans prendre position. Même pas prendre position dans le sens d'une opinion, sans avoir un point de vue. C'est-à-dire vivre juste quelques minutes d'affilée en vous laissant toucher par ce qui est là, c'est-à-dire par la vie. Vous laissez toucher. Regardez un enfant, il se laisse constamment toucher. Il est vulnérable, bien sûr. Donc, il faut lui protéger l'enfant. Alors, est-ce que c'est capable, est-ce qu'on est capable de vivre en se laissant toucher exactement comme un enfant, mais en ayant les protections fonctionnelles de l'adulte? Est-ce que c'est possible? Trêve de suspense, je vais répondre oui. C'est possible. Je n'aime pas les suspens. Oui, c'est énervant. Alors ne vous en faites jamais, parce que tôt ou tard, quelque chose qui va submerger tous vos problèmes. J'appelle ça la joie. Vous n'y échapperez pas. Ça y est. Tout va bien. Tout va très bien. La question n'est pas de savoir si tout va bien aller aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, c'est de voir de quelle manière tout va bien aller. Par exemple, je vais faire mon emploi. Tout va bien. Je vois bien pas parce que j'ai perdu mon emploi. Parce que si je suis convaincu, voyez, si je suis convaincu que la vie est belle parce que je viens de trouver un bon emploi, c'est sûr qu'un jour la vie sera pas belle. Que je vais perdre mon emploi. Inévitable. Ou ma femme, ou mon mari, ou mon compte en banque, ou ma santé, ou mon énergie, ma vitalité, mon corps. Alors, la vie est belle, mais c'est pas à cause de ça. La vie est belle, parce qu'elle est belle. La vie est très belle. Ça va mal dans le monde, la vie est belle. Vous dites, ouais, j'entends parler, vous savez, les tremblements de terre, les abîmes, les inondations. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dire ça à ceux qui viennent d'avoir un tremblement de terre en 1998 ou quelque chose comme ça. On ne peut pas leur dire ça. C'est ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais il reste que la vie est belle. Pas parce qu'il arrive ceci ou qu'il arrive cela ou qu'il n'arrive pas cela. La vie est belle parce que c'est sa qualité. C'est beau. Tout ça, c'est beau. Si vous regardez votre propre vie, tout ce que vous avez fait dans votre vie, vos succès, vos échecs, vos erreurs, vos folies, vous ne pouvez pas faire autrement à un moment donné de trouver tout ça mis en bloc, là, de trouver tout ça beau. Il y a une beauté dans tout ça. Oui?
Disons le drame, c'est que nous souhaiterions le développement d'un théorème, alors que vous en faites un axiome.
On souhaiterait
que vous en développiez un théorème, alors que nous, que vous en faites un axiome de cette joie.
Oui, absolument, bien sûr. C'est indémontrable.
Oui.
Bien sûr. Le moins ne pourra jamais expliquer le plus. L'essence de la vie, c'est comme une bonne blague. Quand on est obligé d'expliquer, c'est pas drôle. C'est vrai, ça vient. C'est là ou c'est pas là. Voilà. Si c'est pas là, c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Et vous devez pas me croire. Il n'y a pas à croire quoi que ce soit. Allez voir. Allez-y voir. Allez jusqu'au bout de ce que vous avez commencé dans la vie. Vous allez voir. Peu importe votre domaine de recherche personnelle dans la vie, la manière dont vous cherchez, allez jusqu'au bout. Ne croyez rien. Ni ce que je dis, ni ce que vous vous dites à l'intérieur. C'est fait pour, n'ayez pas peur de vous tromper. On fait que ça. Qui a peur de se tromper? Encore l'ego. L'ego qui a peur de se tromper. Elle n'a pas peur de se tromper, elle fait qu'il y a des erreurs. Parce que tout meurt, entendez-vous. Hein, toutes les formes se décomposent. Tous les grands musiciens du passé qui ont composé aujourd'hui sont en train de décomposer. Alors, oui, j'en fais un axiome. C'est vrai. Mais c'est pas une affirmation, ça là, c'est une affirmation de ce que je dis. C'est une invitation. Il faut le prendre comme une invitation. Allez voir. On ne peut pas démontrer ce qui existe. On peut juste dire. Et encore. Et encore. Ça doit venir de l'intérieur. En réalité, si on est ici ce soir, parce qu'on l'a déjà vu. Sinon, on ne serait pas ici. Voilà. Alors, les objections sont, comment dire, j'y crois pas. On a déjà été touché par l'essence de la vie. Sinon, on n'aura pas gaspillé notre histoire. On va rien dire de substantiel ce soir. On va partir aussi vite qu'avant. On n'aura rien obtenu, rien gagné, aucun espoir, vous allez partir avec aucune technique, rien. C'est beau ça. Faire quelque chose. Faire quelque chose d'inutile. Voilà. L'inutile est divin. Voilà. C'est divin, tout ce qui est inutile. Ah, un nouveau-né, c'est divin. Pourquoi c'est complètement inutile? À quoi ça sert un nouveau-né? C'est-à-dire un enfant n'a pas un nouveau-né. À quoi ça sert un nouveau-né? Mais à rien. Pourtant, quand c'est là, c'est ce qui est le plus précieux. Alors, ce qui est vrai est inutile. C'est-à-dire, ça n'a pas, c'est pas vrai pour quelque chose. C'est pas là pour quelque chose. C'est là parce que c'est là. Ah. Parfois, quand on voudrait se le faire démontrer, c'est qu'on a déjà vu, mais qu'on n'a pas confiance, parce que la mémoire a recommencé à prendre le dessus, donc on n'a pas été assez ébranlé encore. Mais on l'a été un peu, donc on doute. Voilà. Alors, ce qui va mettre fin au doute, c'est pas un raisonnement, c'est pas une démonstration, c'est pas un théorème. C'est un choc. Un coup de bâton, et les maîtres d'un. La seule chose qui libère, c'est l'étonnement. Et vous ne pouvez pas planifier votre étonnement. Quand même. Vous ne pouvez pas le planifier. Vous ne pouvez pas vous pratiquer à être étonné. C'est-à-dire, dorénavant, tous les matins, de 6h à 7h, je vais être étonné. Les gens font des méditations comme ça. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de maître d'étonnement. C'est étonnement, la méditation, c'est ça. C'est être dans l'étonnement, dans le ravissement, être pris. Voilà. On ne peut pas décider ça délibérément. C'est pas une technique. C'est pas une technique. C'est... Ça vient par amour. Vous êtes tellement amoureux de la vie. Vous êtes tellement pris par la beauté. Vous devenez silencieux. Vous êtes bouche bée devant la beauté. Là, vous êtes saisi par le silence. C'est pas l'imaginaire de quelqu'un qui est allé saisir le silence, complètement à la surface. Là peut faire éruption quelque chose d'énorme, d'énorme. Tout bouleversé. Là, c'est pas celle de l'autre. Là, il y a un vrai changement. Pas un changement de personnalité, un changement du coup. On ne peut plus fonctionner de manière personnelle après, de manière inquiète, de manière calculatrice. Vous vivez dans l'immensité. Il n'y a plus de peur, donc vous vivez dans la générosité. Vous ne craignez plus de perdre quelque chose si vous donnez. Vous ne donnez plus, vous ne recevez plus. Vous ne voyez plus le monde comme ça. Voilà. Ça ne vous vient plus. Il y a un courant qui est là, irrépressible, intéressant, cool, large, fort, puissant. Qui est relocable. On est tous convaincus d'être à quelque part. On n'est nulle part. On n'est nulle part. Et vous pouvez juste voir ça. Juste ça. Mais le voir, vraiment le voir. Il n'y a rien d'autre à connaître dans la vie. Voir que vous êtes nulle part. Vous n'êtes pas sur une chaise. Vous n'êtes pas localisé entre vos deux oreilles. La conscience, elle est nulle part. Contrairement à des neurologues, des savants, ils voudraient nous faire croire avec leur ridicule des électrodes, des expériences, de la conscience. C'est primitif. C'est primitif. C'est une autre façon de le dire. Regardez dans revenons au parallèle du rêve. Regardez dans le rêve. La conscience du rêveur, c'est la seule réalité du rêve, hein? On est bien d'accord là-dessus. La conscience du rêveur, elle est nulle part. Elle est nulle part dans, par rapport à l'espace-temps du rêve, de l'histoire du rêve. Elle est nulle part. Elle est partout en même temps, forcément. Transposez ça dans l'état de veille, là où on semble exister actuellement. Ce qui est vrai, c'est-à-dire vous, qui est vivant, vous, c'est-à-dire moi, pas voir moi puis vous, là, pas ça. Ce qui est vivant, ce qui est conscient actuellement, ce qui vit, qui est là, ça là, c'est nulle part, c'est pas quelque part. C'est une image qui vient se superposer là-dessus pour me dire que je suis dans un corps qui est sur le chair de cet endroit, mais pas quelque part. Vous pouvez voir ça, tout est clair. Vous pouvez voir ça sans rien tenir, tout est clair. Si vous le voyez, vous tenez encore un morceau de vous-même, là, vous pouvez avoir un problème, vous pouvez avoir très peur. Ça peut être terrorisant de voir que vous êtes d'une part, tout en essayant de tenir encore une partie de vous-même. Pourquoi pas? Des gens qui paient très cher pour avoir peur. Vous l'avez gratuitement. C'est beau la terreur. Très beau. Il y a plein de vie dedans. L'immensité est juste derrière. Et vous passez à travers. Mais la terreur vient quand on tient encore quelque chose. Chose qui résiste, qui ne veut pas lâcher. Et voir que vous êtes une part, oui, ça peut être clair. Sinon, c'est juste. Je vous projette en dehors de toutes vos images. Ça fait éclater ce qui est inutile. Voilà. Alors, pour résumer un peu, pour me ramasser un peu là, la seule démarche vraiment libératrice, c'est celle que vous êtes en train de faire. C'est votre vie, telle que vous la vivez maintenant, en allant jusqu'au bout. Vous allez dire, ouais, ma vie, comme je la vis maintenant, là, c'est pas très libérateur. On repose jusqu'au bout. Allez-y, n'ayez pas peur. Allez jusqu'au bout de tout. Allez jusqu'au bout de vos désirs. Ça veut dire, regardez, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pourquoi vous désirez ça? Regardez ça. Regardez, vous allez voir. Restez là. Généralement, on ne reste pas là. Hein? Il y a quelque chose qui arrive. On pressent quelque chose, on entend quelque chose, on voit quelque chose, et on reste pas là. On se rue à la rencontre de la mémoire. Restez là. Restez collé à ce qui est là. D'instant en instant. Je vais voir. Ça ne prend pas longtemps. Si on peut faire ça. Sinon, c'est pas grave non plus. Tout va bien. Vous ne pouvez pas perdre votre vie. Vous ne pouvez pas perdre votre temps. Vous s'assurer d'avoir un peu quelque chose à manger, un endroit où dormir, et puis voilà. Et pour le reste, on ne pouvait pas perdre votre temps. Vous avez toujours fait des expériences de vie, de toute façon, sur la table. Quand je dis, allez jusqu'au bout. Poussez à fond, allez-y à fond. Qu'on en finisse. Pas avec l'existence terrestre, mais qu'on en finisse avec, avec cette demi-vie, cette survie, avec toute la mièvrerie dans nos vies. On n'est pas fait pour vivre de manière mièvre. On est fait pour quelque chose d'immense, quelque chose d'énorme. On est fait pour se sentir vibrer. Alors suivez le courant de vie. Tout ce qui nous appelle, qui vous semble vivant, allez-y. Examinez ça. Vous n'êtes même pas obligé de l'examiner par l'action. Vous pouvez l'examiner en y allant avec votre conscience. Vous pouvez voir. Et rapidement, il y a quelque chose de très clair qui vient. On va pas nommer. Et là, on peut dire, c'est la seule manière qu'on peut étancher la soif. Une fois que vous avez étanché la soif, c'est que la soif ne surgit plus. Le mécanisme de la soif est éradiqué. Voilà. La seule manière d'éradiquer, d'étancher la soif. La seule manière de se guérir de la peur de la mort, c'est de mourir. Ben allez-y, mourrez. Qu'on en finisse. Mourir veut dire voir que on n'est absolument rien de tout ce qu'on a pensé à être jusqu'à maintenant. Alors, toutes nos images meurent. Nos croyances meurent. C'est ça qui meurt. Vous, pas de crainte, vous n'allez jamais mourir. Vous n'êtes jamais né. C'est la seule manière. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de substitut. Vous voyez, si vous êtes encore, si vous sentez encore capable, vous avez encore envie de vivre 5%, 3%, 2%, même 20%, ou si vous voulez vraiment vivre à 100%, on veut tous vivre à 100%, aucun doute là-dessus. Alors, il n'y a rien, absolument rien à détruire dans votre vie, à enlever, il n'y a rien à gagner non plus. Ce qu'il y a dans votre vie, c'est fait pour être regardé. Voilà. Regardez. Pas regarder à travers la mémoire, mais vraiment regarder. Que regarder à travers la mémoire, c'est pas regarder, c'est manipuler. On voudrait manipuler la réalité pour la rendre en accord avec les images qu'on a. Regardez, c'est sans choix. Il n'y a rien à choisir, rien à trier. Des j'aime, j'aime pas, non. C'est la seule manière. Personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut vous empêcher de le faire non plus. La possibilité est là de vivre autrement, de vivre intelligemment, c'est-à-dire joyeusement, dans la tranquillité, dans l'éclat, dans la beauté, de vivre de manière poétique sur la terre, d'être touché. Beaucoup de gens qui ont une certaine sensibilité, mais qui se sentent vulnérables, ça les fait souffrir, la sensibilité, parce que oui, il y a une sensibilité, mais il y a encore l'imaginaire d'être quelqu'un, donc il y a quelqu'un de vulnérable. Dans une complète sensibilité, vous ne pouvez pas souffrir. Vous allez sentir énormément, il n'y a plus quelqu'un qui pourra souffrir, c'est-à-dire qui pourrait offrir une résistance à ça, qui pourrait dire, ah, c'est long dommage que ce soit comme ça le monde, si ça pouvait être autrement, ça serait tellement merveilleux. Non, il n'y a plus ça. Ça ne vous empêche pas de ressentir de la tristesse. Mais c'est pas douloureux. Parce que vous n'avez plus l'imaginaire qu'il ne devrait pas y avoir de la tristesse. Voilà. Alors c'est ça la, que j'appellerais la vie spirituelle, la vie intelligente, c'est la vie tout court. C'est la vie tout court, mais vécue clairement. Voilà. D'instant en instant. C'est-à-dire directement. Simplement. Simple. Simple. Soyez simple. La vie, elle est simple. On est dans un mal-être parce qu'on vit plus simplement. On construit un paquet de choses inutiles à chaque instant de notre existence. C'est simple, tellement simple. Pas plus simple que ça. C'est pas facile parce qu'on est habitué à vivre dans la complexité. Il y a des questions? Oui. La place de l'imaginaire, de nous faire voir ce qui est réel, de nous faire voir ce qui est réel, que l'imaginaire, l'imaginaire c'est toujours des mouvements, des volutes de, qui viennent de la seule intelligence qui soit. L'imaginaire fait tracer des grands cercles et met en relief ce qui n'est pas un imaginaire. La seule manière de le montrer, c'est de créer un imaginaire. Comme on dit, par exemple, on se prend tous pour quelqu'un, c'est un imaginaire. C'est merveilleux. C'est ça qui permet de mettre en relief ce qu'on est vraiment, qui n'est pas un imaginaire. En se prenant pour quelqu'un, puis en voyant qu'on n'est pas ça, que ce qu'on est finit par donner le ton. C'est comme ça, c'est ça le mécanisme. Alors l'imaginaire a toute la place dans la vie. C'est pas une erreur. Tout ce qui fait l'objet d'un savoir, donc d'un mot, tout ce que je peux désigner par un mot, c'est l'imaginaire. C'est une catégorie assez vaste, quand même. Ça, c'est un imaginaire. Je suis convaincu qu'une chaise, c'est quelque chose qui existe vraiment. Allez-y voir. Allez-y voir. Il y a des scientifiques, il y a des physiciens qui sont allés examiner ça de très près. Et ils n'ont encore rien trouvé de substantiel. Pourtant, ça fait des siècles. Ils ont des grosses machines qui coûtent très cher, qui ne marchent pas souvent. Pour examiner ça, rien trouvé de substantiel. On ne sait toujours pas c'est quoi. La matière. On ne sait pas c'est quoi. Pas un physicien qui peut vous dire c'est quoi, s'il est honnête. Pas un biologiste qui peut vous dire c'est quoi la vie, s'il est honnête. Vous connaître, mais vous dites, je ne sais pas. Alors, tout ce qui est nommable, conceptualisable, plein imaginaire. Et c'est ça, c'est à force d'évoluer au niveau des imaginaires qu'à un moment donné, il y a autre chose qui devient trop évident, mais que je ne pourrais toujours pas nommer. C'est ça qui est poétique de nos vies. On est en train de raconter une histoire, et derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Hein, vous lisez un poème, vous lisez des mots, qui ont un sens, mais vous savez que c'est pas ça qui est essentiel dans le poème. C'est ça qui est poétique. Les mots, ça a un sens, c'est le premier degré. C'est pas le premier degré qui compte. Non, c'est pas la peine. À un moment donné, quand j'ai fini de lire le poème, il y a quelque chose qui est là, là. Je peux pas mettre un mot dessus. Il y a quelque chose. Quelque chose qui n'est pas quelque chose. C'est ça. L'existence elle-même est poétique. C'est pour ça que le langage poétique, c'est le plus puissant. La parole qui explique, elle va jamais très loin. Ah, c'est nécessaire sur le plan fonctionnel de tous les jours. Mais c'est un langage qui est très peu puissant sur un plan essentiel. Ceux qui sont le plus près du langage, là, ceux qui sont le plus près de la réalité, c'est les poètes, les rêveurs. C'est eux. Le philosophe allemand Heidegger disait une fois, il disait, la pensée de l'être ne recherche aucun appui dans les temps. Dans les formes. Quand tu dis la pensée de l'être, lui il emploie le mot pensée, pas dans le sens restreint où nous on emploie généralement. Pensée de l'être ne recherche aucun appui dans les temps. Autrement dit, ce qui est invisible, ce qui est essentiel, ce qui est vrai, ne peut pas s'appuyer sur ce qui est quelque chose, qui est une forme. Ça revient un peu à la première question de tout à l'heure. On ne pourra jamais démontrer l'être à partir de l'étang, à partir des objets qui sont. Alors, quand on voit ça clairement, on voit bien que la parole qui démontre, qui explique, qui résonne, elle va très peu loin. Elle va très peu loin. À ce moment-là, la parole perd sa prétention à pouvoir un jour nommer vraiment et définitivement la réalité. Et à ce moment-là, elle devient un peu plus poétique. Voilà. Elle donne des signes. Elle fait signe. On peut vivre de manière poétique. Vivre de manière poétique, ça veut dire gronder votre enfant en ayant l'air d'être très en colère. Quand ça a eu son effet, vous vous retournez. Ah, c'est poétique. Jouez votre rôle à la perfection. C'est poétique. Jouez votre rôle de fils, de frère, de père, d'amant, de maîtresse, de ceci, de cela, à la perfection. Sans jamais vous prendre pour ce rôle-là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est beau, une beauté là-dedans. Voyez vos capacités. Quand je dis vos capacités, les capacités de votre corps, de votre intellect, de votre psychisme. Voyez vos capacités physiques, intellectuelles, financières, vitales, etc. Et là, vous voyez le rôle que vous pouvez jouer dans la société autour de vous. Alors, vous jouez ce rôle-là. Sans vous prendre pour ce rôle-là. C'est ça qui est beau.
Thank you.